Les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de Principe Actif. C'est donc le groupe d'Évreux d'Amnesty International pour la deuxième émission mensuelle du mois d'avril, puisqu'on est le 25. Voilà, donc une heure.
C'est bientôt la fin du mois alors.
Oui, c'est bientôt la fin du mois. Donc une heure pour parler des droits humains, de l'actualité des droits humains et de différents sujets par rapport à ça. Et ce soir avec moi au micro, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Il y a Edith.
Bonsoir à tous.
Il y a Ronan derrière les manettes.
Bonsoir.
Et il y a Didier qui a commencé à parler en premier.
Il y a Ronan qui me regarde avec des yeux ronds.
Il ne va pas te regarder avec autre chose que des yeux. Hein.
Oui, c'est vrai. C'est très judicieux.
Ils sont déjà en train de se taquiner. Ça va être terrible cette émission, je sens.
Bon, reprenons. Donc ce soir, on va vous parler, on va vous dire un petit mot sur les élections, bien sûr, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au dimanche dernier, on a voté. Et que dimanche, dans une quinzaine de jours, on revote. On va vous en dire un petit mot. On va vous parler, Clarisse va vous parler d'une expo à Paris qui concerne les réfugiés. Edith va vous parler de la Tchétchénie, va vous parler aussi des élections. Ronan va vous parler de ses habituelles bonnes nouvelles et de son appel à l'action un petit peu plus tard dans le courant de l'émission. On va vous parler aussi de droits de l'enfant. C'est moi qui vais vous en parler. Françoise n'étant pas là, je vais vous parler de droits de l'enfant.
Moi, c'est Didier. Il a pris son boulot.
Non, mais je dis que moi, c'est Didier, quoi.
Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire.
Non, parce que tu parles pour toi en disant moi.
Ah oui.
Donc je dis moi, c'est Didier.
Tout le monde comprend.
C'est
ça.
Parce que tout à l'heure, je ne t'ai pas présenté.
Bah oui, mais bon,
j'ai essayé de m'attraper.
Comme je dis qui dit quoi, je suis bien obligé de présenter. Ah, ça va être difficile ce soir, l'émission, je sens.
Oui, là, je le sens aussi. Bon.
Donc, moi, je vais vous parler des droits des enfants et plus précisément de ce qui se passe de la guerre et de la famine au Sud-Soudan et au Yémen. Edith va vous parler du Pérou, du prix des ambassadeurs de conscience d'Amnesty International, etc., etc., etc.
Bref, petit tour du monde des droits humains.
Bref, ce ne sont pas les sujets qui manquent encore aujourd'hui. Un petit mot sur les élections. Donc, je vais vous lire, c'est très rapide, le communiqué, et puis je vais faire un petit commentaire après. Le communiqué fait par Amnesty qui est sorti sur le site depuis les élections de dimanche et qui dit ceci. Le premier tour de l'élection présidentielle a qualifié deux candidats qui prétendent à la plus haute fonction de l'État. Nous attendons donc d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen qu'ils affirment avec force leur attachement aux droits fondamentaux et leur demandons de s'engager publiquement pour le respect des droits de tous. Les droits humains sont le socle de l'État de droit et la condition sine qua non d'une société ouverte et apaisée, libre et juste. Ils ne sont ni une menace, ni une entrave à la sécurité, et leur respect n'est pas négociable. Un rappel plus que jamais nécessaire alors que la campagne électorale a fait émerger des propos attentatoires aux droits humains. Nous avons ainsi pu nous alarmer du manque d'engagement de certains candidats à la présidentielle en réponse à notre interpellation auprès de l'ensemble des candidats du premier tour sur 10 points relatifs au respect des droits fondamentaux. Là, je fais un petit questionnaire complémentaire sur ce communiqué. C'est que par rapport à ce questionnaire donc, qui concernait les candidats du premier tour, il y a deux candidats qui n'ont répondu absolument à aucune question d'Amnesty. Il s'agit de François Fillon et de Marine Le Pen.
Le questionnaire, il correspondait, il parlait des droits de l'homme, hein, quand même, il faut leur
bien
dire.
Sûr. Bien sûr. Alors, j'en prends le communiqué. Dans cette période d'entre-deux tours, nous sommes désormais mobilisés pour fournir aux électeurs des informations détaillées sur les programmes et engagements d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen en matière de droits humains. Plus que jamais, nous restons donc en alerte pour défendre et protéger les droits humains et lançons un appel à la vigilance et à la mobilisation des citoyens. Donc, je signale que, c'est marqué sur le communiqué, mais ce n'est pas très radiophonique, je signale qu'il y a une pétition à signer.
Actuellement
en ligne. Eh bien voilà, c'est Claire-Lise qui va vous en parler. Vas-y Claire-Lise.
Eh bien c'est une pétition qui, je vous en ai déjà parlé il y a 15 jours, mais je l'avais reprise parce que, bon je vais vous le dire tout à l'heure, mais j'ai des croquettes.
C'est changé.
Cette pétition, donc c'est Madame la Présidente ou Monsieur le Président, le respect des droits humains de tous est la condition d'une société libre et juste, dans laquelle chacun peut vivre en sécurité et dans le respect de sa dignité. Ces dernières années, en France, des droits essentiels ont été remis en cause dans les discours de responsables politiques et dans la pratique des institutions. Des pouvoirs d'exception ont été mis en place au nom de la lutte antiterroriste. Certains groupes de la population ont été stigmatisés et les réfugiés ont été accueillis de façon indigne. Il est temps que cela cesse. Je veux une France terre d'accueil et de liberté. Vous en avez le devoir, le pouvoir et la responsabilité. Dès lors, je vous engage solennellement à lutter avec force contre les discriminations dont sont victimes des groupes entiers de la population, sous prétexte de leur origine ou de leur religion, mettre en place une politique d'accueil des réfugiés respectueuse de leur dignité, combattre les menaces à notre sécurité avec nos meilleures armes, celles de l'État de droit. Voilà.
Alors,
ça, c'est la
signer.
Pétition qui est en ligne.
Voilà.
Il faut aller signer cette pétition et ce sera remis au prochain président ou présidente de la République française à l'issue du second tour. Elle existe aussi sous forme de carte postale, d'ailleurs. Moi, je l'ai renvoyée aussi sous forme de carte postale. Et puis, pour terminer cette petite présentation par rapport aux élections, je vais vous dire un petit mot. Alors, ce n'est pas tiré là, des publications d'Amnesty, mais j'ai entendu ce matin sur France Culture, une radio concurrente et néanmoins amie, sur France Culture ce matin, un philosophe qui s'appelle Frédéric Worms qui parlait. Dans la tranche matinale, et qui parlait justement, de non pas en termes polémiques politiques, mais en termes d'idées générales sur le deuxième tour des présidentielles. Et il rappelait des choses très justes en disant que les principes politiques, alors ce qu'il appelait lui les principes politiques, recoupent ce que nous, en très grande partie, ce que nous on appelle effectivement les droits fondamentaux et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Lui, il appelait ça effectivement que c'était des principes politiques et que ces notions-là sont fondamentalement importantes et qu'elles sont à la base de la démocratie étant le bien essentiel à sauvegarder. Sur quoi on ne peut être que nous, en tant qu'amnistiens, tout à fait d'accord avec cette déclaration-là. Et il a ajouté une pensée qui m'a paru très juste. Il parlait du fait que dans la campagne électorale actuelle, il y a beaucoup de choses qui se ramènent au respect des pays, au respect des valeurs françaises, au respect de notre identité, etc. etc. Et il a rappelé que le respect annoncé comme tel, ne se décrète pas, contrairement à tout ce qui est dit au niveau politique, et ça, il ne peut absolument pas se décréter, mais qu'il ne peut que se prouver et se conquérir par rapport à l'action et à la solidarité qu'on fait envers les autres communautés humaines.
Et ben, c'est comme les principes de bien-traitance. Ça ne se décrète pas, ça se vit.
Ça se vit et ça se voit.
Exactement. Et que tous les gens qui voulaient effectivement ériger de façon autoritaire ou disons de façon unilatérale ces principes-là ne pouvaient aboutir qu'à la situation inverse. Et j'ai trouvé effectivement que cette façon de voir les choses était tout à fait intéressante. Donc vous pouvez réécouter l'émission de ce matin sur France Culture, hein, c'était sur le coup de 8h, sur le site de France Culture, c'est réécoutable comme vous voulez. Voilà. On avait dit qu'on parlait aussi des élections
aussi,
et que
voilà,
c'était Edith qui allait continuer.
Non, ce n'est pas les élections vraiment, c'est l'actualité tragique.
Ça recoupe.
Voilà, ça recoupe, enfin pour les principes amnistiens, on les retrouve, mais c'est aussi l'attentat des Champs-Élysées du jeudi 20 avril. Et effectivement, bon, Amnesty a tout de suite fait paraître un communiqué de presse qui exprime toute la solidarité envers les victimes et leurs familles. Et ce que dit aussi Amnesty rejoint ce que dit Didier et toute l'importance là des forces de l'ordre, car le gendarme est mort car il faisait partie des forces de l'ordre, qu'il joue un rôle essentiel pour la protection de toutes les personnes vivant sur notre territoire. Seule la justice, la liberté et le respect des droits humains permettront de lutter dans la durée contre la barbarie et le terrorisme. Et là aussi, on demande au prochain président de la République, que la France est sur le point d'élire, il aura aussi mission à y veiller. La peur légitime ne doit pas nous conduire à remettre en cause les droits fondamentaux qui protègent chacun d'entre nous. Ceux qui commettent et ou organisent ce type d'attentat nient complètement les droits humains, à commencer par le droit à la vie. Nous ne devons pas leur donner la satisfaction de nous voir renoncer à nos valeurs et à nos principes. Voilà. Donc on est vraiment dans nos valeurs et nos principes et actuellement, il faut savoir les mettre en valeur, je pense, et encore plus nos principes de militants d'Amnesty.
Bien évidemment. Je m'aperçois d'ailleurs qu'on voulait vous dire une petite info en ouverture de l'émission et que je l'ai zappé, mais il n'est pas trop tard.
Alors,
il est 19h10 et qu'on est aussi présent à 20h au théâtre au Cadran. On a une table de presse autour de du spectacle de ce soir qui est tiré de l'œuvre de Molière, qui s'appelle Tricetin et les femmes savantes, et on a une table de presse consacrée aux droits des femmes. Donc si vous voulez passer de la théorie et nous écouter à la pratique et agir avec nous, vous pouvez à la fin de l'émission vous précipiter au Cadran et venir signer les actions concernant les droits des femmes qui vous seront présentées.
Mais non, mais moi je pense que même en faisant la queue au Cadran, ils peuvent écouter l'émission en même temps.
En faisant quoi ?
En faisant la queue, en attendant
que faisant la queue au Cadran.
Et puis même...
Allez, aujourd'hui, avec téléphone portable,
et aller signer les pétitions. C'est vrai, moi, vrai. Je pense aussi quelque chose. On sait que le spectacle est complet. Oui. Mais nous, Amnesty, on est dans l'entrée. Oui. Vous rentrez, vous signez.
Il y a Mina, Sabine, Françoise qui vous attendent.
Voilà. Et vous ressortez.
Faire signer les pétitions. Quoi, non ?
Non, parce qu'il y a Sabine et Françoise.
Non, mais c'est pas
oui,
grave.
Bah oui.
C'est
voilà, pas grave. Mais il y a vraiment des gens qui vont pouvoir vous expliquer.
Il a préféré aller chanter.
Ah bah oui, c'est
vrai. Et puis parmi les gens qui nous écoutent tout de suite, il y a sans doute des gens qui ont également leur place pour aller au spectacle, qui vont y partir tout à l'heure. Donc voilà.
Non mais les deux ne sont pas incompatibles, ça se termine juste. Non,
voilà,
ça...
donc on est présent tout à l'heure à 20h au Cadran. Donc c'était pour réparer un oubli.
Et maintenant
il y a Claire-Lise qui va vous parler culture pour remplacer Mina dont on vient
ouais,
de
Mina,
vous parler.
Oui, Mina n'a pas voulu venir, Claire-Lise.
Voilà, et qui va vous parler d'une exposition. Tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors c'est une exposition qui va avoir lieu du 15 avril au 11 mai. Et c'est une exposition sur les réfugiés exposée au cœur de Paris. Donc cette exposition est installée sous la canopée des Halles pour exposer le travail du photographe Samuel Bollendorf. Alors, l'exposition s'appelle « La nuit tombe sur l'Europe » et expose les parcours d'exil et atteste des violences que les réfugiés subissent tout au long de leur parcours d'exil. « La nuit tombe sur l'Europe » propose un regard différent sur celles et ceux qui sont contraints de fuir les violences des conflits ou les persécutions. Ce projet est une enquête minutieuse que Samuel Bollendorf a pu conduire en se fondant sur nos rapports et nos sources et en se rendant sur ces étapes que les réfugiés doivent franchir pour tenter de trouver un refuge en Europe. Un parcours à l'envers que seul le temps long du reportage autorise. Samuel Bollendorf a ainsi pu étaler ce travail d'enquête sur 6 mois, au printemps et à l'été 2016. Son travail exposé fait dialoguer images et textes. Il restaure la parole des réfugiés pour témoigner des violences qu'ils subissent sur les routes de l'exil. De la violence des passeurs à celle des forces de l'ordre, des coups au viol, de la prostitution forcée à la détention. La violence décide souvent de leur départ et accompagne bien trop souvent leur fuite. Les mots de ces hommes, de ces femmes et de leurs enfants sont livrés en regard des lieux qu'ils ont traversés pour tenter de trouver refuge dans une Europe qui s'érige en forteresse. Des lieux de passage photographiés, vides, pour souligner la déshumanisation. L'exposition se prolonge par un film, plan-séquence de la nuit qui tombe, sur une plage de mer Égée. Un symbole fort de cette Europe qui se ferme à celles et ceux qui sont uniquement en quête de protection. Un besoin humain, tout simplement. Le texte de ce film est lu par Catherine Deneuve, figure citoyenne qui rend hommage à ses destins malmenés sur la route de l'exil. Et suit un entretien avec le photographe Samuel Bollendorf qui
on pose des questions.
Oui,
sur
en fait,
son
c'est un chroniqueur d'Amnesty qui lui posait des questions. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais il y a quelques passages que j'ai trouvé intéressants et dont je vais vous rapporter. Donc Samuel Bollendorf dit « J'étais lourd de ces histoires en mer Égée ». Alors on lui demande « Votre dernier travail est une enquête sur les traces laissées par les migrants en Europe ». Samuel Bollendorf « Je n'avais pas forcément prévu de travailler sur ce sujet-là. J'avais l'impression qu'il était largement traité, que les images de ces réfugiés perdus en mer, en colonne, tout au long de l'Europe, nous arrivaient déjà. Ce n'était pas la peine d'être le 100e photographe sur les plages de la Méditerranée ou sur la route des Balkans. En même temps, ces images n'opéraient plus. On l'a vu avec le drame du petit Elan, qui a ému l'opinion pendant quelques semaines. puis a été balayée par une autre actualité. Et puis, par les attentats de novembre, par les informations laissant supposer que, au milieu des réfugiés, se cachaient des hordes de djihadistes prêts à commettre des attentats. Le fantasme sécuritaire reprenait le pas sur le drame humain. Ensuite, j'ai pris connaissance d'un rapport d'Amnesty sur les violences faites aux femmes. C'était une première accroche. Je me suis dit qu'en parler permettrait de sortir du fantasme du djihadisme, plutôt masculin, et de celui de ces migrants qui vont piquer notre boulot. Je venais de terminer un travail sur les immolations volontaires. Des images de lieux vides, dialoguant avec des textes, racontant ce qui s'était déroulé sur ce bout de trottoir, ce coin de parking, etc. Et je me suis demandé s'il ne fallait pas essayer de réaliser un travail photographique sur les réfugiés qui, justement, ne les montreraient plus, puisque nous les avions déjà vus, un peu à la manière d'une persistance rétinienne. Un travail photographique sur les lieux, sur la plage où on a retrouvé Elan, sur le camp d'Idoménie, sur la mer Égée, sur Calais, mais sans jamais voir un réfugié. Sur la base d'un travail d'assimilation, des rapports d'Amnesty, de l'UNICEF, des reportages, des journalistes, et en allant sur place, récolter d'autres témoignages. Je voulais redonner alors à lire des histoires, des drames individuels qui se sont joués. Alors sur le titre « La nuit tombe sur l'Europe », est-ce un constat ou un point de vue ? C'est d'abord très lourd, mine de rien, de lire ces rapports, de rentrer dans le détail. J'étais lourd de toutes ces histoires, ces milliers de morts en Grèce, en Turquie, autour de ce bras de mer Égée, qui ne peuvent être vus que comme un charnier. Je ne pouvais m'empêcher de regarder cette mer en me demandant comment rendre cette vision, comment donner à imaginer cette horreur. Je suis allée d'abord en Grèce, ensuite en Turquie, et je me suis retrouvée à côté d'une de ces maisons turques dont on a l'impression qu'elles seront toujours en construction avec ces piles de béton. Il y a des couches usagées, des pulls d'enfants, des briques de lait vide, des morceaux de carton sur lesquels les gens avaient dormi. C'était un lieu de regroupement des réfugiés attendant un passeur. En contrebas, sur un sentier descendant la falaise, on arrivait au milieu des rochers, du ressac, de la mer Égée, à un point d'embarquement. J'imaginais la terreur d'être obligé d'embarquer avec sa famille, menacée par une arme, dans un canot pneumatique surchargé au milieu des vagues dans cet endroit hostile, en espérant trouver refuge sur les côtes grecques, juste en face, à 7 kilomètres. La nuit tombait. Le soleil était déjà passé derrière l'île de Kos. Ce n'était pas une carte postale. Ce n'était pas un coucher de soleil. C'était la tombée de la nuit. Je me suis dit, c'est ça. Il faut faire un plan fixe. La mer et ce ressac. Cette immensité avec les côtes si proches. Il faudrait une voix forte, d'une comédienne qui nous redonnerait à entendre tout ce que vont subir ceux qui embarquent à cet endroit-là. Le péril, la noyade pour certains, le naufrage et les corps abandonnés dans un cimetière, dans un champ à Lesbos, les camps de rétention à Moria, les frontières fermées à Idoménie, la boue, le froid, les excréments, les barbelés hongrois, les bijoux réquisitionnés au Danemark, les foyers incendiés par des groupes fascistes en Allemagne, la jungle à Calais, les violences par la police française. Il fallait faire un film, un plan fixe, la nuit tombée sur l'Europe, et ce titre s'est imposé à moi.
Voilà, et moi j'ai écouté la voix de Catherine Deneuve, je pense que c'est sur le site d'Amnesty.
Oui, c'est sur le site.
Ça dure 10 minutes.
Je l'ai écouté aussi, enfin j'ai vu le film, effectivement.
Et effectivement, c'est émouvant.
C'est sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Je pense que l'expo, moi je ne l'ai pas vue, j'espère pouvoir y aller avant la fin. Tu nous rappelles les dates, hein.
Alors, c'est sous la canopée des Halles, à Paris, et c'est du 15 avril au 11 mai.
Il faut y aller avant le 11 mai. Il nous reste 3 semaines. Quoi,
ouais, parce que c'est comme un temps
c'est assez court quand même. Ouais, oui.
J'ai cru comprendre aussi qu'en fait, l'expo était mis à l'entrée ou dans un centre commercial. Je n'ai pas très bien compris. Mais en fait, apparemment, ce n'est pas dans un lieu exprès pour une exposition.
Elle a dit les halles. La canopée.
La canopée. Oui, mais c'est quoi la canopée des
halles? C'est parce que c'est un peu en forme de...
C'est joli comme terme, mais bon.
C'est le haut des halles.
Je connais le sens de canopée.
Je crois que c'est
dans l'entrée ou dans un centre commercial.
On a souhaité montrer ce travail dans l'espace public. Donc, nous avons sollicité la mairie de Paris avec l'idée de faire cela sous la canopée des Halles, qui est vraiment le cœur de l'Île-de-France. C'est le hub des transports, un centre commercial géant. J'aime à imaginer que des gens vont se retrouver là et en passant, faire face à ces images de 2 mètres par 4 et à ce film porté par la voix de Catherine Deneuve. Là, je me dis qu'on est utile, qu'on touche des gens qui ne sont pas venus pour cela. On va faire des kits pédagogiques pour les enseignants, montrer le film aux élèves, montrer une version pour l'étranger. On va le donner en accès libre à tous les journaux qui voudront le diffuser. Mon énergie passe autant dans le fait de faire des images que de trouver les moyens qu'elles soient vues et diffusées le plus largement possible. Faire en sorte que cela serve à quelque chose.
D'accord. Donc, Évreux, c'est pas très loin de Paris, hein, donc c'est facile d'accès. Donc, rendez-vous pour tout le monde si vous avez le temps. Donc, il y a la canopée des Halles.
Voilà.
C'est ça.
Donc, on attend vos commentaires.
Avant, les premiers, enfin, jusqu'au 11 mai.
Les premiers qui vont pouvoir voir cette expo, mettez-nous un petit mail sur Principal.
Je m'arrangerai pour prendre le temps d'y aller.
Toi, Didier, pour toi, c'est facile.
Oui, mais bon.
Voilà, voilà. Je pense qu'une petite pause,
musicale serait pas mal.
Les âmes naissent libres, dignes de vie et de respect. Elles nous rêvent debout et ne meurent jamais. Chaque âme est naturellement reliée aux autres par un réseau de valeurs, de confiance et de bonheur. Patrimoine de la terre intérieure, jardin fertile et ressources inépuisables d'humanité, elles méritent protection et bienveillance au titre des espèces invisibles. Elles constituent notre lien indéfectible de fraternité avec les générations d'hier et celles de demain. Douées de forces invisibles, elles ne sont soumises à aucune limitation de courage et de beauté. Toute âme a le droit imprescriptible de se sentir chez elle dans chaque tradition spirituelle. C'est à l'épreuve de l'histoire que les âmes forgent leur singularité et leur noblesse. Elles ont une aspiration naturelle à l'unité dans la paix du vivant. Chaque âme brisée a le droit imprescriptible à se relever, à être nourrie et guérie. Si les âmes sont libres et nomades par nature, elles ont aussi la force d'habiter ton cœur, ton pays, ton village, ta banlieue, une frontière, une prison, la souffrance, un exil et notre planète. Toute âme porte en elle les ressources et l'obstination à vivre debout, même dans une société injuste, face à laquelle elle est irrésistiblement le premier refuge et le dernier espoir pour la changer. Les droits de l'âme valent pour toutes, y compris celles qui n'ont jamais servi ou se sont égarées. Chaque être humain peut délibérément choisir de vendre son âme. N'est pas à n'importe qui.
Donc, de retour à Amnesty International, groupe d'Évreux. Donc, nous venons d'écouter Yves Muvrini sur un titre qui s'appelle « Déclaration des droits de l'âme ».
Bien, donc de retour à l'antenne. Et maintenant, c'est Edith qui va...
Non. Vous... Ah oui, bah c'est si. Moi. Mais bah si, si, c'est moi. Ah bah je lisais si. À l'envers.
C'est bien la peine qu'on prépare avant.
Eh oui, oui, oui.
Donc, c'est Edith qui va vous parler de la Tchétchénie. Et après, Ronan qui va vous donner quelques bonnes nouvelles dont
ouais,
il a le secret.
Après ce que je vais dire, je pense qu'on a besoin de bonnes nouvelles. Donc moi, je vais vous parler d'une actualité que vous avez peut-être entendue par rapport aux homosexuels et faire un rapide petit rappel de ce qui se passe dans encore plein de pays. Donc là, ce que j'ai pu trouver, c'est dans 80 pays, l'homosexualité est illégale. Alors, Iran, Mauritanie, Arabie Saoudite, Soudan, Yémen et Émirats Arabes Unis. Elle est passible de la peine de mort. Dans d'autres États, être homosexuel est un crime qui conduit à la prison. Mais cela aussi prive du droit de se réunir ou de manifester pour défendre ou revendiquer ses droits. Le quotidien peut également être fait de menaces, d'humiliations, dans des paroles, dans des actes, voire même des agressions. Donc le fait divers dont Amnesty a relaté, c'est en Tchétchénie. Et le quotidien indépendant russe Novaya Gazeta nous rappelle qu'actuellement, les homosexuels auraient été enlevés en Tchétchénie. Donc là, auraient été enlevés, hein, voilà. Des hommes auraient subi des actes de torture, de mauvais traitements et auraient été contraints de divulguer l'identité d'autres personnes, lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres de leur connaissance. Mais il y a aussi des informations plus concordantes, donc toujours le même journal. Alors on vous rappelle, Novaya Gazeta, c'est l'un des derniers journaux indépendants. Alors pour les plus anciens, on va citer peut-être Anna Politkovskaya, qui était journaliste à Novaya Gazeta, qui parlait sur la Tchétchénie et essayait d'avoir un discours, on va dire, au plus près de la réalité. Donc ce journal indépendant affirme détenir des informations vérifiées concernant au moins 3 hommes qui ont été tués par leurs ravisseurs, mais les sources du journal affirment qu'un plus grand nombre de personnes auraient été tuées. Donc certains des hommes enlevés auraient été depuis rendus à leur famille, probablement car leur orientation sexuelle n'ont pas été confirmée par les ravisseurs. Mais ils restent cependant en grand danger en raison d'une homophobie locale. Effectivement, les membres de l'ONG russe LGBT Network ont confirmé ces informations et ont ouvert une ligne téléphonique d'urgence pour aider les personnes qui auraient besoin de se mettre en sécurité en dehors de la région. Cependant, des avertissements anonymes circulent également sur Internet pour mettre en garde contre le fait que certaines des propositions d'aide sur Internet peuvent être utilisées par les auteurs de ces crimes pour traquer davantage les personnes LGBT. Et le gouvernement, que fait-il, allez-vous me demander? Eh bien, le gouvernement, il est très réticent à enquêter. Les réactions des autorités tchétchènes à ces informations ont varié du déni. Par exemple, Alvi Karimov, l'attaché de presse du président de la République, au refus de les prendre en sérieux, en passant par des menaces supplémentaires à peine voilées. Le 3 avril, Dimitri Peskov, l'attaché de presse du gouvernement russe, a annoncé que le ministère de l'Intérieur était en train de vérifier les informations relatives à la persécution présumée d'hommes d'orientation non traditionnelle. Rien que ces termes. Voilà, oui. Ben, chacun pourra imaginer. Alors, Amnesty rappelle aussi les crimes d'honneur dans le Caucase du Nord. Les crimes d'honneur continuent à être commis dans le Caucase du Nord et particulièrement en Tchétchénie. Donc, ce qui se passe, c'est que les hommes considérés comme ayant salit l'honneur de leur famille en étant gay ou perçu comme étant gay, risquent réellement d'être tués aussi par les membres de leur propre famille. Les responsables des crimes d'honneur restent souvent impunis pour ces crimes. Et récemment, de nombreuses vidéos violentes menaçant les militants gays ont été publiées sur Internet. Keda Saratova, membre du Conseil des droits de l'homme sous l'égide du président de Tchétchénie, avait commenté dans un premier temps que la société tchétchène et l'intégralité du système judiciaire tchétchène traiteraient quiconque aurait tué un proche homosexuel avec compréhension. Elle a par la suite affirmé qu'elle avait été mal comprise et que la révélation de l'existence d'hommes gays en Tchétchénie l'avait choquée au point de ne pas pouvoir penser clairement. Je peux vous répéter, de ne pas pouvoir penser clairement.
Qui pouvait pas penser clairement, la petite dame qui parle?
Voilà, parce que c'est tellement inimaginable qu'en Tchétchénie, il y ait des hommes, des femmes, d'autres orientations sexuelles. Voilà, donc c'est quand même très très grave et carrément couvert par le gouvernement. Si. Les autorités tchétchènes dirigées par Rasma, Ramsa Kadyrov, je savais que j'allais me planter. Et pourtant, Dieu sait si on le connaît, celui-là, pour ses...
C'est un homme de paille de M. Poutine.
Voilà, et son côté un peu dictateur. Hein,
un peu.
Non.
C'est un euphémisme.
Contrôle de fait pratiquement toutes les sphères de la société de cette République russe du Caucase du Nord. Toute forme de dissidence est violemment réprimée et les défenseurs des droits humains, les professionnels des médias, les militants politiques, notamment ceux n'étant pas originaires de Tchétchénie, font l'objet de menaces, de harcèlement et souvent de violences physiques. Alors juste pour rappeler, la Tchétchénie, ça fait partie de l'Europe. Hein.
Oui, ça fait partie
C'est pas loin de chez nous.
Ça fait partie de la Russie, enfin, de l'Union de la Russie.
Voilà, donc c'est notre continent. Hein. On n'est pas parti très loin et voilà ce qui se passe.
Et juste deux petits commentaires, si je puis me permettre.
Permets-toi.
Par rapport à la journaliste dont tu parlais, pas la journaliste, mais la personne dont tu parlais, là, qui ne comprenait pas ce qui se passait.
La membre du Conseil des droits de l'homme.
Voilà.
De Tchétchénie.
Donc, si elle ne comprenait pas qu'il y ait une population homosexuelle et avec des droits en Tchétchénie, c'est peut-être qu'elle a peut-être un problème de quantité de neurones dans le cerveau, sans vouloir être méchant, parce que vraiment, ça fait quand même partie des choses qui sont tellement évidentes.
Mais quand dans certains pays, alors il y en a d'autres, mais là, la Tchétchénie, on nie complètement. Voilà. Et la réponse est, il n'y en a pas chez nous.
A priori, il n'y en a pas, d'après ce que j'ai.
Et quand on permet qu'il y ait des enlèvements, qu'il y ait des rançons demandées, qu'il y ait des familles même qui considèrent ça comme crime d'honneur, et que tout ça, ça soit impuni, effectivement, tout discours qui nous semble complètement pire qu'étonnant, enfin, qui nous semble complètement...
C'est surtout parfaitement malhonnête et hypocrite. Mais
et bon. Les droits de l'homme, dans ce cas-là, sont absolument pas
respectés.
Et un petit mot sur Anna Politkovskaya, parce que les auditeurs et auditrices n'ont pas forcément son nom en tête. C'est quelqu'un qui a été tué il y a 10 ans, apparemment, c'est ça ?
Oui.
Qui a été tué il y a 10 ans. Mmh. Et qui était donc journaliste, comme l'a dit Edith, et qui était très engagée pour la défense des droits humains en Russie. Et qui a été assassinée alors qu'elle sortait de chez elle un matin.
Elle parlait trop.
Sans doute,
parlait trop de ce qui se passait quand il y a eu la guerre en Tchétchénie, quand il y a eu les expéditions russes en Tchétchénie. À ce moment-là, la Tchétchénie avait essayé de se sortir un peu des griffes de la Russie,
oui,
avec des mouvements d'opposition. Oui. Et ils ont été très, 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 très forts pour plusieurs années dans des conditions de vie absolument indescriptibles. Et elle parlait trop vrai. Et voilà, on pense effectivement, il y a eu des procès, mais on pense que c'est que les hommes de paille qui ont été...
C'est les hommes de paille qui ont été, arrêtés et inquiétés. Mais
je pense que
les donneurs d'ordre, c'est-à-dire le gouvernement...
Notre ami
le gouvernement de M. Poutine ne se seront jamais inquiétés par rapport à ça.
Je pense qu'il était peut-être derrière quand même.
Et après, la solution de la Russie, c'était de mettre, comme tu dis, un homme de paille, donc l'ami...
Voilà. Donc, se reposer un peu, une bonne nouvelle,
Romain ? Se reposer, oui.
Enfin, se reposer, disons, changer un peu de sujet.
Mettre un peu d'espoir.
Hein, voilà. Là, il y a un espoir, c'est en Malaisie. Donc, il y a une première étape vers l'abolition de la peine de mort. En sachant qu'en Malaisie, la peine de mort est depuis longtemps le châtiment obligatoire pour 12 infractions, dont le trafic de drogue. Or, toute personne transportant aujourd'hui donc 200 grammes, l'équivalent de 2/3 d'une canette de soda de cannabis, peut être arrêtée et peut être condamnée à mort. Donc, le 23 mars 2017, donc ça c'est récent, le ministre de la Justice a déclaré que le gouvernement avait chargé le procureur général de préparer des modifications de la loi relative aux drogues dangereuses. Donc le ministre a déclaré qu'il était prévu que la mesure ajoute à l'article des dispositions supplémentaires permettant de conférer aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de prononcer des peines autres que la peine de mort automatique dans certains cas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même quelqu'un qui a été pour trafic de drogue, après c'est l'avocat qui va décider si ça ne sera pas systématiquement la peine de mort. Donc c'est une petite avancée. C'est une petite avancée. Il reste beaucoup de travail, mais bon, c'est quand même en bonne voie. Donc, une deuxième bonne nouvelle, est Los au Texas, il y a une exécution qui a été évitée. Donc, aux États-Unis, à la suite d'un recours déposé par ses avocats, l'exécution de Paul Storé, qui était prévue pour le 12 avril, a été suspendue par la Cour d'appel pénale du Texas. Donc, c'est pareil, quoi. C'est une petite, on va dire, bonne nouvelle, parce qu'elle a été suspendue, mais ça ne veut pas dire...
La peine de mort n'a pas été annulée.
Non, tout à fait. Bon, elle était suspendue. Et le fait d'être suspendue, des fois, je ne vais pas dire que c'est pire, mais être dans la...
On imagine la personne, voilà. Tout ça, on imagine les années surtout, passées dans l'histoire de la mort.
Après, c'est pas ce qui va se passer, voilà.
Et surtout qu'elle est en prison depuis 2006, donc ça fait depuis 2006 que cette personne, donc elle attend au niveau du couloir de la mort. Et donc, c'est vrai que ça doit être très, très...
Et d'après ce que j'ai pu lire, il y a pas mal d'irrégularités qui ont entaché son procès, je crois.
Tout à fait, parce qu'en fin de compte, l'accusation avait présenté, des éléments à charge qu'elle savait faux. Mm-hmm. Elle savait que les éléments à charge étaient faux, mais...
Ça ne les gêne pas.
Ça ne les gêne pas, non, qui a été condamnée. Alors, ils étaient à deux, en fin de compte, cette personne était condamnée parce qu'elle est accusée donc, d'avoir tué une troisième personne, ils étaient à deux. Mais ceux deux qui ont été accusés, il y en a un qui a été relâché parce qu'il a fait des accords avec le gouvernement américain. Donc on ne sait pas quel genre d'accord. Donc je ne sais pas que ça pourrait être possible. Donc lui, il a refusé de signer le papier. Donc en fin de compte, il a accusé à mort. Alors que tous les deux, ils étaient aussi coupables.
Ouais, l'autre. Enfin, justice à plusieurs niveaux.
Voilà, il y a des choses tout à fait contestables en termes de justice équitable, dirons-nous. Mmh.
Tout à fait.
J'ai entendu, ça me fait penser, on n'avait pas parlé avant l'émission, mais ça me fait penser à une information que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps. C'était aux États-Unis.
Ah non, c'est pas sur le conducteur, tu ne parles pas, non.
C'était aussi aux États-Unis, c'était au Nebraska. Enfin, je ne suis pas certain de l'État. Mais l'État voulait, ça m'a fait bondir sur mon siège, mais vous en avez déjà parlé aussi dans nos émissions. L'État voulait accélérer les exécutions.
Il y avait une série d'une dizaine d'exécutions qui avaient été.
Voilà. Parce qu'ils avaient peur de tomber en rupture de stock de produits pour faire les injections létales.
Tout à fait.
Lequel produit maintenant n'est plus vendu par l'Union européenne, puisque c'est une chose qui a été obtenue entre autres par la mobilisation d'Amnesty.
Il y a quelques années.
D'interdire l'exportation des produits aux États-Unis qui servent aux injections létales. Et que donc cet État-là, craignant d'être en rupture de stock, avait demandé à accélérer les exécutions. Ouais, c'est quand même dans les catégories sordides.
Ils en avaient programmé une dizaine.
Voilà. Et apparemment, c'est la Cour suprême qui a annulé la décision en disant que ça ne pouvait pas être retenu comme étant un argument pour exécuter les gens avant les dates prévues.
Toutes les possibilités de recours.
Donc, ils étaient prêts à aller plus vite, à les tuer. Hein, parce que ça en fait en moins, hein, des crapules, si on peut dire.
Oui.
Bref.
Ouais. La peine de mort, vaste sujet.
Voilà, on n'en reparlera pas aujourd'hui, mais on en reparlera dans d'autres émissions, c'est sûr. Bon, moi, je vais donc, je vous disais, remplacer un peu Françoise et vous parler des droits des enfants. Il y a la lettre, enfin, il y a un document interne d'Amnesty qui vient de sortir, là, que j'ai eu hier, et qui fait le point sur les droits des enfants dans le monde. Je ne vais pas tout vous lire, ça fait quand même quelques
dizaines
de pages.
Ah non, parce que sans ça, vous allez vous endormir, c'est très, très, très intéressant.
Mais il y a un sujet, alors c'est un sujet pas simple non plus, hein, pas très gai non plus, mais qui est important. Et l'édito, je vais vous le lire, donc ça s'appelle la lettre de la Commission des droits de l'enfant, et l'édito dit « Le spectre hideux de la famine et de la guerre ». Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré dans un point de presse du 22 février 2017 « La situation est tragique, la famine et la maladie emportent des vies. Nous sommes confrontés à une tragédie. Nous devons empêcher qu'elle ne se transforme en catastrophe. Cela pourra être évité si la communauté internationale prend des mesures décisives ». Alors, quelles sont-elles ces catastrophes en perspective? Eh bien, quatre catastrophes humanitaires sont annoncées pour les semaines qui viennent. Au Yémen, au Somalie, au Soudan du Sud et au nord-est du Nigeria. 1,5 million d'enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère, pas seulement de faim. Ces enfants sont en danger de mort rapide si on ne leur apporte pas de secours immédiatement. Au Yémen, en Somalie, en Soudan du Sud et au nord-est du Nigeria, la famine n'y est pas seulement une conséquence du dérèglement climatique, c'est le fruit de l'action de l'homme. Guerre civile, intervention militaire des grandes puissances ravagent ces régions depuis plusieurs années. Yémen, Somalie, Soudan du Sud, nord-est du Nigeria, quatre régions, entre autres, où l'on fait un usage immodéré d'enfants soldats. Recrutement, enrôlement de gré ou de force, utilisation, participation active des enfants dans les conflits armés. 1500 cas de recrutement d'enfants au Yémen entre mars 2015 et février 2016 par les partis houthis et loyalistes. 5000 enfants recrutés en Somalie depuis 2013 par les milices Chebab et la coalition gouvernementale. 17 000 enfants dans les deux camps du Soudan du Sud. Et un nombre mal connu d'enfants qui combattent ou sont envoyés dans les attentats suicides par Boko Haram au nord-est du Nigeria. Oui, j'entendais ça aussi récemment à la radio, effectivement. On expliquait que le Boko Haram au Nigeria, qui apparemment a des difficultés pour recruter des kamikazes, envoie maintenant de force des enfants se suicider, entre guillemets, dans les attentats. on recule vraiment devant rien dans le sordide.
Et c'est des jeunes enfants. Ouais.
Un enfant sur 10 dans le monde vit dans une zone de conflit. La moitié de ceux-là sont directement affectés par les combats. Dans toutes les zones de conflit, écoles, hôpitaux sont des cibles de bombardements. La moitié des réfugiés qui fuient les conflits sont des enfants. Je répète la phrase. Hein. La moitié des réfugiés qui fuient les conflits sont des enfants. Petite parenthèse personnelle. Et après, il y a des candidats à la présidentielle qui veulent fermer les frontières. Lors de la conférence du 21 janvier 2017, rassemblant à l'initiative du ministère français des Affaires étrangères et de l'UNICEF, ministres et ambassadeurs de tous les pays signataires des principes de Paris, le général canadien Romero Dallaire, connu pour son engagement pour la démobilisation des enfants soldats, a déclaré que l'utilisation d'enfants soldats précédait toujours une catastrophe, massacre et génocide. Antonio Guterres, donc le secrétaire général de l'ONU, dans sa déclaration à la presse, a dit « La vie de millions de personnes dépend de notre capacité collective à agir. Dans notre monde d'abondance, il n'y a pas d'excuse pour l'inaction ou l'indifférence. » Ça, ça me rappelle aussi une phrase que j'avais entendue par je ne sais plus qui, enfin un Suisse qui est spécialiste de la faim dans le monde, qui avait dit « À l'heure actuelle, vu qu'on est en mesure de nourrir l'intégralité de la planète, chaque enfant qui meurt de faim est tué volontairement. » Là, ce n'est pas dit dans le document d'Amnesty, mais c'est un petit rajout personnel. Alors, je vais vous faire un petit résumé.
Ça aussi, ça fout les miquettes.
Oui, voilà, un petit résumé des deux pays. On vous en a parlé dans cet éditorial de quatre pays. Je vais vous dire quelques mots sur deux d'entre eux. Donc, la famine au Sud-Soudan, les enfants en première victime. Donc, comme il est dit, comme je dis tout à l'heure, cette année, 1,5 million d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sont en danger de mort. On ne va pas reprendre les mêmes termes. Sur le plan international, le monde n'avait plus connu de telles famines, donc là on parle du Soudan, depuis 6 ans, après celle qui avait touché la Somalie. La situation de sécurité alimentaire au Sud-Soudan se détériore de jour en jour, si bien que pour la première fois, depuis l'indépendance du pays en 2011, le gouvernement national a déclaré un état de famine dans plusieurs régions du pays. Petit commentaire aussi personnel qui n'est pas dans l'article, c'est que j'ai entendu aussi récemment par rapport à ça, que le Sud-Soudan en fait avait été créé sous l'impulsion en 2011 suite à un référendum, mais surtout il paraît que le référendum en fait il y a 10% de la population qui y a participé. Enfin bon bref.
Il y avait déjà beaucoup un état de guerre larvé à l'intérieur entre la population arabe et les populations noires aussi.
Et cet état a été créé surtout à l'instauration visiblement des États-Unis pour embêter le président actuel du Soudan, qui est lui-même quelqu'un qui n'est pas du tout fréquentable, parce qu'on est tous d'accord. Ben, c'était surtout pour l'embêter et aussi récupérer le pétrole dans le Sud-Soudan, parce que le Sud-Soudan est la région du Soudan qui est la plus riche en pétrole. Tiens, c'est bizarre aussi. Hein. C'est toujours le
même. On retrouve toujours les mêmes.
Voilà. C'est peut-être une coïncidence.
Mais que depuis que le Sud-Soudan a été créé, les États-Unis, entre autres, n'ont strictement rien fait pour financer la création de l'État. Donc, il n'y a pas d'État donc réel. Donc, le président actuel est en guerre contre l'ancien Premier ministre. Donc, voilà, ça commence bien. Et donc, je vais revenir au dossier d'Amnesty qui dit l'homme, donc au Sud-Soudan, l'homme est la première cause de la famine. L'homme avec un grand H, le genre humain. La crise humanitaire n'est autre que le fruit de l'action de l'homme. La guerre civile qui oppose le camp du président Salva Kiir à celui de son ancien vice-président Riek Machar, comme je vous le disais, ainsi que l'effondrement économique du pays, ont contribué de façon significative à l'émergence de cette crise. En 2016, des milliers d'enfants de l'Équatoria centrale, c'est une région du pays, ont fui vers l'Ouganda, au sud du pays, affectant gravement la production alimentaire. Bon, on s'ensuit un certain nombre de chiffres que je ne vais pas vous répéter non plus, mais il est dit un petit peu plus loin que l'effondrement de la production agricole aboutit à une inflation de 800% sur un an. Donc les prix des produits alimentaires là-bas ont été multipliés par 8 en un an. 3 ans de conflit ont gravement compromis la production agricole et les moyens d'existence ruraux à travers le pays. La recrudescence de violence depuis juillet 2016 a contribué à l'effondrement de la production agricole, y compris dans des zones auparavant stables. L'inflation en hausse, donc comme je vous disais, et les défaillances des marchés ont également affecté des zones qui dépendaient depuis toujours des marchés pour satisfaire leurs besoins alimentaires. Les populations urbaines peinent également à en sortir face à la hausse importante des prix des produits alimentaires de base.
Ce que tu dis, c'est qu'effectivement, la famine, ce n'est pas un problème vraiment de mauvaise culture.
Non.
C'est une accumulation de,
c'est un état qui est en faillite.
Gestion, voilà. et de personnes qui gèrent leurs intérêts. Et c'est les enfants et les adultes qui payent le prix. Quoi. Voilà.
C'est un état qui est en faillite et qui n'assure pas effectivement le minimum d'infrastructures étatiques, dirons-nous, pour gérer effectivement ces besoins-là. C'est vraiment une famine créée de toutes pièces. Ça, il faut absolument en être conscient. Et au Yémen, alors on vous en a déjà parlé, hein, Edith, vous en avez déjà parlé de ce qui se passe au Yémen et d'une guerre dont les médias ne parlent très peu. Il y a actuellement 10...
Et qui intervient là-bas?
C'est l'Arabie Saoudite.
Et des armes.
Les armes sont vendues par la France.
Par le Brésil.
Oui. Il y a la France, mais les Russes aussi.
Donc là, pour la famine qui est en train d'apparaître au Yémen, plus de 10 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Selon l'organisation onusienne UNICEF, 2,2 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë et ont besoin de soins de toute urgence. Parmi eux, 462 000 enfants souffrent d'une malnutrition aiguë sévère, la forme la plus extrême de malnutrition. Alors, une ONG qui est présente sur place, c'est Action contre la faim, et qui dit, lors de notre, qui gère un certain nombre d'hospices et d'hôpitaux sur place, lors de notre dernière consultation, 40% des enfants reçus en consultation dans notre clinique mobile ont été pris en charge. Donc, c'est ACF, Action contre la faim, pardon, qui dit ça. Souffrant de malnutrition aiguë sévère, ils présentent souvent des complications, malaria, pneumonie, et sont extrêmement affaiblis.
Bah malheureusement, on peut imaginer toutes les horreurs, là, c'est sûr. Hein.
Le traitement de la malnutrition doit être une absolue priorité, sans quoi de nombreux enfants vont mourir. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand même suffisamment parlant, c'est qu'à l'heure actuelle, au Yémen, un enfant meurt toutes les 10 minutes.
Voilà. Alors, Didier, je peux juste rajouter, parce que sur la dernière chronique, on parlait effectivement, moi j'avais hésité à parler du Yémen, et là, c'est du côté des armes. Là, c'est l'intérêt de Ronan sur les armes. Parce que ce qui se passe, c'est le Brésil qui vend des armes à sous-munitions, qui elles-mêmes infligent des pertes inimaginables aux civils. Vous savez, les armes qui explosent après et qui font vraiment des dégâts
qui
humains.
Qui font le plus de dégâts.
Voilà. Et donc, et ben, malheureusement, il y a plein de gens, plein de pays qui ont signé la convention d'interdiction des armes à sous-munitions, mais l'Arabie Saoudite, le Yémen et le Brésil, ils ne sont pas signataires. Ouais. Donc voilà, c'est l'engrenage, c'est vraiment l'engrenage dans tous les sens et la complicité d'énormément de politiques et d'États dans cette situation humanitaire catastrophique.
Et par rapport à ce que tu viens de dire, je m'arrêterai là, l'article d'Amnesty continue en disant « Les attaques sur les zones civiles continuent à tuer et blesser un grand nombre d'enfants ». Voilà. Donc ces deux exemples, encore une fois, c'est les enfants qui souffrent de famine et qui souffrent de la guerre, c'est uniquement par l'action humaine, ce n'est pas du tout dû au climat ou aux aberrations écologiques, même si c'est important. Mais là, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, ces enfants-là meurent de notre faute.
Voilà, des conflits, des gens extérieurs, des armes qui n'ont pas à y être, et puis et des enfants et des adultes. Parce que là, on parle des enfants, mais on imagine aussi la situation
forcément.
Des adultes.
Mais là, comme c'est la lettre sur la Commission des droits de l'enfant, on parlait des enfants. Bon, Renan, on écoute quelques mesures de musique. Voilà, je vais arriver à le dire. Turn off the TV.
this is something I've got to see. Is he here? I look in the pool hall. Well, is he here? I look in the drugstore. Is he here? No, he don't come here no more. Well, I tell you what, I saw him. He was sitting behind us down at the penitentiary.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc pour laisser la fin de l'émission mensuelle, enfin bimensuelle d'Amnesty International Évreux sur la défense et la promotion des droits humains. Et donc on vient d'écouter bon, une vieillerie, mais que j'aime beaucoup, moi j'ai retrouvé tout à l'heure, donc que j'ai amené, Ricky Lee Jones, c'est un morceau qui s'appelle Chuck is in Love. Donc maintenant c'est Edith qui a quelques mots à vous dire.
Je vais vous parler un peu de personnes qui défendent leur terre, qui défendent leur droit à l'eau, leur droit à vivre dans leurs idées, dans leur tribu. Et donc je vais vous parler en premier, ça se passe au Pérou, de Maxima Acuña. Alors Maxima Acuña, on la connaît déjà, nous Amnesty, et vous si vous nous avez suivis, car elle faisait partie des 10 personnes pour qui on demandait signature au mois de décembre. C'est une paysanne péruvienne qui mène un combat depuis 4 ans contre une entreprise minière, l'entreprise Yanacocha, j'ai trouvé les deux orthographes et je ne sais pas le prononcer, et parce que dans son territoire, donc elle est dans ces montagnes, et si cette entreprise arrivait à faire cette mine, ça serait la plus grande mine à ciel ouvert d'Amérique latine. Et cette mine nécessiterait de construire 5 lagunes afin d'y verser quotidiennement 90 tonnes de déchets miniers, de substances chimiques, dont du cyanure, et peut-être aussi ça ferait environ un volume de 11 millions de mètres cubes chaque année, et ce pendant 17 ans. Donc on peut comprendre que la communauté quechua ne soit pas d'accord, et que cette femme... Alors moi j'avais été émue quand on avait travaillé à faire signer, à expliquer aux gens pour qu'elles aient à aller des signatures. C'est une femme qui est analphabète. On nous avait dit que nous on pouvait lui envoyer une chanson ou lui envoyer des photos pour montrer qu'on s'occupait d'elle. Et donc elle se bat vraiment avec sa famille pour que cela ne se passe pas dans son pays. Et elle a toutes les peines du monde. Parce qu'on essaye de la discréditer, on essaye de l'accuser d'occuper illégalement des terres, et on essaye aussi de faire qu'elle soit considérée, même dans sa propre communauté, comme quelqu'un qui utilise son travail en droit pour les droits humains pour s'enrichir. Donc ça, bah effectivement, là, ce sont le procureur, tout le système judiciaire du Pérou, et aussi bien la compagnie minière, qui l'accuse d'être une squatteuse, alors même que la question de la légalité de son terrain est encore en suspens. Et on essaye de stigmatiser, de criminaliser les défenseurs des droits humains, et cela pour rendre les mouvements sociaux et les organisations opposées, enfin les rendre vraiment criminels, même carrément. Il y a ce mot-là, l'amalgame entre défenseurs et criminels, pour ôter toute légitimité à leur travail, alors qu'on imagine que ce travail est très compliqué et leur demande vraiment une force morale très importante. Donc, en plus de cette entreprise de discrédit, eh bien, le 12 avril, la Cour suprême du Pérou devait rendre sa décision concernant les accusations fallacieuses d'occupation des terres retenues contre Maxima Acuña et contre sa famille. Eh bien, Maxima Acuña a fait les 1000 km pour aller à Lima. Et elle a appris, en allant au tribunal, que cette décision avait été ajournée au 3 mai. La cour ayant indiqué que certains des juges n'avaient pas disposé de suffisamment de temps pour parvenir à une décision. Le fait de l'avoir obligé de faire tout ce trajet jusqu'à Lima à ses frais, uniquement pour entendre que l'audience était ajournée, semble être une nouvelle manœuvre destinée à punir cette femme et sa famille et à entraver son travail légitime de défense de l'environnement. En engageant des poursuites contre Maxima Acuña, les autorités péruviennes ont tenté de mettre fin à ses activités de défense des droits humains et de l'environnement et ainsi adresser un message aux autres militants. Cette décision est une stratégie visant à la harceler et à entraver son droit de promouvoir et de défendre les droits. Alors Amnesty pense qu'au lieu d'harceler Maxima Acuña et sa famille avec des accusations sans fondement, les autorités péruviennes devraient veiller à ce que les défenseurs des droits humains puissent faire leur travail sans crainte de représailles. Et soyez sûrs qu'on va continuer à surveiller ce qui va se passer.
Bien oui, parce que comme on l'a déjà dit, Amnesty ne lâche jamais.
Voilà. Alors bien. Moi, je voulais vous parler aussi d'un prix, mais là, il ne reste plus assez de temps. Ça sera pour la prochaine fois.
Tu peux dire un mot.
Ça va être trop court.
Tu as une minute pour parler du prix.
Non, je ferai comme Mina. Je serai prioritaire une prochaine émission.
Parce qu'il nous reste encore 4 minutes.
Mais vous avez aussi des choses à dire par rapport à la prochaine réunion.
Non, moi, je ne dis plus rien.
Oh, ça y est, Didier est fâché.
Moi, j'avais un petit appel à l'action.
Allez, c'est Ronan, vrai. Il nous fait un appel à l'action.
C'est vrai, l'appel à l'action de Ronan.
Un petit appel à l'action.
Allez-y.
Que je vais résumer un petit peu. Vas-y. Donc, ça se passe en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Donc, un demandeur d'asile est détenu arbitrairement. Logan Sawari, un réfugié iranien, est détenu dans une cellule de la police de Ouagadougou, en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Il fait l'objet de nouvelles accusations au titre de la loi relative à l'immigration. Il avait été libéré sous caution, donc au mois de février, après avoir été poursuivi pour des accusations similaires au titre de la loi relative au passeport. Le tribunal doit statuer sur une demande préliminaire d'abandon des charges initiales. En sachant plus que Logar Soari souffre de plusieurs problèmes de santé physique et mentale pour lesquels il prend actuellement un traitement et qui devra probablement arrêter pendant sa détention. Donc si vous êtes intéressé par l'action, vous nous envoyez donc un mail dessus notre...
il faut vraiment écrire parce que vous ne l'écrirez qu'une fois en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça vaut le coup, rien que pour envoyer.
Donc, en fin de compte, la lettre déjà elle est prémâchée. Donc, on appelle aux autorités à le libérer immédiatement.
On vous envoie le modèle.
On vous envoie le modèle
tout
de la
à fait,
lettre. C'est ça.
Et qu'ils reçoivent des soins, bien sûr, gratuits. Donc, on n'a pas dit. Je pensais que tu allais donner l'adresse mail.
Mais je compte sur toi, Ronan.
Parce qu'il s'en mêle à chaque fois.
Mais non, je m'en mêle pas.
Donc, vous envoyez vos coordonnées à amnesty.evreux.
gmail.com.
Voilà.
Tu répètes, Ronan ?
Amnesty.evreux. @ Bon, je dis @
@
Ouais, c'est comme tu veux.
Gmail.com. Amnesty, on appelle quand même, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, Amnesty.
Ceux qui ne connaissent pas...
Ils regardent sur Internet, ils vont trouver le site.
Et
ils
on vous envoie la lettre, on vous aurait simplement à la signer et à la réexpédier. Voilà.
Bah, si, vas-y, Kerlis.
Kerlis, vous voulez piquer un coup de gueule pour finir l'émission.
Allez,
c'était pour reprendre la discussion qu'on avait avant de rentrer dans le studio. Parce que voilà, on parlait après les élections et qu'il y avait bientôt le deuxième tour. Et on parlait justement de pour qui on allait voter, tout ça. Donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur les droits humains. Et on a la chance d'être dans un pays où quand même on peut aller voter. La difficulté, c'est... Bon, des fois, quand on se sent un peu coincé entre la peste et le choléra...
On va dire que c'est compliqué.
C'est un petit peu compliqué.
Ouais.
Et puis, je me disais que quand même, il y a le risque qu'un vote blanc, il tombe dans la profonde nuit marine et que parfois, je rêve plutôt d'un vote en polychrome pour les droits humains.
Voilà. Très bien dit, Claire-Lise.
C'est très joli, oui. Mais voilà. Ça reste un point de vue personnel. Prochaine émission,
ça sera
rendez-vous le 16 mai, 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif. Et vous avez toutes les émissions en podcast sur le site internet de la radio.
Et bonne soirée au cadran
pour ceux qui vont.
Voilà.
Au revoir.